Chapitre 43. Bien qu'elle fourmillât d'activité comme d'habitude, la belle cité d'Aïdindril n'était pas dans son état normal. L'inquiétude voilant leurs regards, les gens rassemblés par petits groupes tenaient des messes basses tout en lorgnant les étrangers d'un œil soupçonneux. Chaque jour apportait son lot de batailles sanglantes, de percées ennemies, de villes conquises, de soldats morts au champ d'honneur et de civils massacrés par les bouchers de l'empereur Soulacan. Certaines de ces nouvelles, Magda le savait, n'étaient que de vulgaires affabulations, mais le plus souvent, elle le savait aussi, la vérité était encore pire que ces histoires d'horreur. Regardant entre les maisons à un étage bâties les unes à côté des autres, la jeune femme apercevait des fragments de la luxuriante forêt qui couvrait les collines et les contreforts de la montagne. En altitude, les pins et les épicéas se ratatinaient parce que leurs racines n'arrivaient pas à pomper assez d'eau dans la roche. Au-dessus des nuages survolés par de grands oiseaux, la silhouette massive de la forteresse se découpait à même le flanc du pic. Malgré la distance, Magda distinguait les créneaux, les postes de garde et les tours reliées par des passerelles. Depuis des lustres, la forteresse du sorcier, à la fois protectrice et menaçante, surplombait la ville, rappelant à tous ses habitants que la magie veillait sur eux et devait en échange être également défendue. Depuis son mariage, vivre dans le complexe inspirait des sentiments mitigés à Magda, car elle avait toujours adoré la foisonnante vitalité d'Aïdindril. Un nouveau locataire devant investir ses appartements, elle avait envisagé de revenir habiter en ville. Mais ce serait impossible tant qu'elle n'aurait pas découvert la vérité sur la mort de Barakus et sur ce qui se tramait au cœur même de la forteresse. Même si personne ne la croyait, la jeune femme restait convaincue que tous les résidents du complexe étaient en danger. Tant qu'il en serait ainsi, pas question d'aller vivre ailleurs. La lointaine guerre monopolisant l'attention des gens, nul ne semblait conscient que l'ennemi était bien plus proche qu'on aurait pu le croire. Alors qu'on était au cœur de l'été, on murmurait que les troupes de l'Ancien Monde seraient en vue d'Aïdindril au début de l'hiver. Assiégée, la cité ne résisterait pas longtemps car elle n'avait jamais été conçue pour ça. Après cette victoire initiale, l'ennemi passerait à la forteresse, une place forte difficile à conquérir, certes, mais pas inexpugnable. De toute manière, se contenter de défendre ne suffisait jamais pour gagner une guerre. Les hordes de l'Ancien Monde avaient déjà plusieurs fois montré qu'elles ne feraient pas de quartier. Tandis qu'une partie des troupes assiégerait la forteresse, l'autre sèmerait la mort et la désolation dans tout le Nouveau Monde. Et lorsque la forteresse serait tombée, tous ses occupants seraient exécutés pour l'exemple. Il en allait déjà ainsi dans les hameaux, les villages et les villes qui se dressaient sur le chemin de l'envahisseur. La reddition ou la mort, et parfois la reddition et la mort. Se cacher derrière des murs d'enceinte et des portes bardées de fer n'éliminerait pas la menace. Tôt ou tard, la forteresse tomberait. Si le mal n'était pas vaincu, il deviendrait de plus en plus fort. Mais comment détruire ce mal-là? Magda n'en savait rien. En revanche, elle était sûre que l'ennemi n'approchait pas chaque jour un peu plus. Il était déjà là. N'avait-elle pas subi l'attaque d'un de ceux qui marchent dans les rêves? N'avait-elle pas vu Isadora se faire tailler en pièces par un monstre? Ces événements étaient liés, ça tombait sous le sens. Magda devait le démontrer et démasquer ceux qui tiraient les fils dans l'ombre. Par moments, se frayer un chemin dans les rues d'Aïdindril était aussi difficile que remonter une rivière à contre-courant. Inébranlables, tels des rochers qui forcent l'eau à s'écarter, les colporteurs criaient à tue-tête les mérites de leurs marchandises et les gens résignés les contournaient en baissant la tête. Certains marchands ambulants tiraient des charrettes où ils exposaient de la viande fumée, du poisson, des légumes, des fruits ou des objets manufacturés. Les boulangers, eux, portaient des plateaux lestés de belles miches de pain. De faux sorciers, bardés d'amulettes, éructaient des malédictions dans l'unique dessein de vendre leurs absurdes talismans. Des enfants fascinés les écoutaient prédire la fin du monde, jusqu'à ce que leurs parents révulsés les tirent par le bras et les entraînent au loin. Dès qu'elle apercevait un de ces charlatans, assez audacieux pour prendre les femmes par leurs bras et leur expliquer qu'elles devaient absolument se munir d'une amulette, Magda n'hésitait pas à traverser la rue. Les faux sorciers ne reculant devant rien, ils prévenaient leur clientèle que le stock de dérisoires breloques, avec la progression de l'ennemi, ne pourrait pas être renouvelé. Pour le salut, c'était maintenant ou jamais. Impressionnés, certains citadins cédaient à la menace, tandis que d'autres, pressés de se débarrasser de l'escroc, lui achetaient quelques babioles. Malgré la chaleur, Magda, comme beaucoup de femmes, gardait relevée la capuche de son manteau léger. En ville, les gens risquaient moins de la reconnaître que dans la forteresse, mais quand on avait été l'épouse du premier sorcier, une célébrité surprenante vous collait à la peau. Le temps jouant contre elle, Magda ne devait pas se permettre d'en gaspiller. Même si elle le déplorait, elle ne pouvait pas s'arrêter pour conseiller les gens sur la manière de réciter les dévotions, et moins encore pour leur donner des nouvelles de la forteresse. En outre, Barakus n'avait pas eu que des amis, comme tout homme public, et certains passants auraient pu se montrer agressifs. La majorité des gens comprenaient que se rendre revenait à se suicider au mieux ou à accepter d'être réduit en esclavage au pire. Mais tout le monde n'était pas capable de reconnaître le mal quand il se présentait sous les traits du salut. Si une foule décidait de la lapider parce que Barakus avait choisi la guerre et non le défaitisme, Magda ne voyait pas comment elle aurait pu lui échapper. La peur étant le pire ennemi de la raison, elle rendait ses victimes incapables d'entendre la vérité. Aveuglés par leur angoisse, certains citadins en voulaient aux chefs militaires, aux conseils et aux premiers sorciers d'avoir décliné les offres de paix de Sulakhan. Pour que le carnage cesse, arguait-il, il suffisait de laisser l'empereur gouverner à la place des conseillers. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui règne, ça changerait quoi en fin de compte? Quand on ne souscrivait pas à leur bizarre notion de la paix, les partisans de la reddition n'hésitaient pas à user de la violence pour imposer leur point de vue. Ces pacifistes, étrangement, étaient les plus empressés à verser le sang quand ça pouvait servir leurs intérêts. Avisant un groupe d'hommes plutôt louches, Magda tira sur son capuchon pour mieux dissimuler ses traits. En passant, les types hirsutes et barbus ne purent s'empêcher de la reluquer. Avec le manteau, on ne voyait pas grand-chose de ses formes, mais le simple fait qu'elle soit une femme leur suffisait. Quelques dignes citadines, se déplaçant en comité, s'intéressèrent un court instant à la jeune femme. Dès qu'elles aperçurent ses cheveux courts sous le capuchon, elles cessèrent de la regarder et s'en allèrent vaquer à leurs occupations. Atteignant un coin de rue, Magda se plaqua contre l'arête d'une maison à un étage qui abritait un tailleur et jeta un coup d'œil à l'auberge qui se dressait en face, un cochon bleu s'affichant fièrement sur son enseigne. Bien que peu familière de cette partie de la ville, la jeune femme sut qu'elle était presque arrivée. Naturellement, elle était allée voir dans le secteur situé sous les remparts sud, mais elle avait appris que l'homme qu'elle cherchait n'y vivait plus. Même si elle voulait absolument le trouver, poser trop de questions aurait pu se révéler dangereux. Depuis la mort d'Isadora, Magda se montrait de plus en plus prudente. Après tout, n'avait-elle pas failli mourir, elle aussi? Il n'y avait plus d'intrus dans son esprit, certes, mais comment savoir s'il n'y en avait pas un dans celui de ses interlocuteurs? Si les armes vivantes de Sulakhan ne pouvaient plus rien contre elle directement, elle restait sans doute sur sa piste. Ne trouvant pas de meilleure idée, Magda était allée voir Tilly. Horrifiée par la fin d'Isadora, la vieille femme s'était sentie coupable parce qu'elle avait montré le chemin à sa maîtresse, lui confiant même un plan. Magda avait fini par convaincre Tilly qu'elle n'y était pour rien. S'il fallait affronter le mal, ça n'était pas sa faute. Selon Isadora, Magda et elle étaient des guerrières et l'ennemi ne leur laisserait jamais de répit. Après un silence pensif, Tilly avait voulu savoir si elle était aussi une guerrière. Magda avait répondu par l'affirmative. Pour tout dire, la vieille femme s'était même montrée plus efficace dans cette bataille que le conseil. Et puisque personne ne voulait l'aider à arrêter l'assassin d'Isadora, avait ajouté la veuve de Barakus, elle allait s'en charger elle-même, avec l'assistance de la guerrière Tilly, bien entendu. Après quelques jours d'enquête discrète, Tilly avait fait son rapport comme un bon petit soldat. L'homme que cherchait Magda ne résidait plus dans la forteresse, mais la brave domestique se faisait forte de découvrir sa nouvelle adresse. Étonnée par cette nouvelle, Magda avait rongé son frein en attendant que la vieille domestique lui rapporte l'information tant désirée. Après avoir jeté un coup d'œil derrière elle pour s'assurer qu'on ne la suivait pas, Magda s'engagea dans la paisible rue. Ici, pas des shops, seulement des maisons, la plupart à un ou deux étages. Serrés les uns contre les autres, ces bâtiments avaient même parfois un mur mitoyen. Derrière, dans des jardinets, les habitants faisaient pousser des légumes et étendaient leur linge sur des cordes. Magda entendit caqueter des volailles et elle crut reconnaître les couinements d'un cochon. Sur une porte, une pancarte aux lettres maladroites annonçait qu'on vendait des œufs frais. Presque au bout de la rue, qui montait en pente assez raide, Magda atteignit la masure qui se dressait à côté d'une maison à un étage. Devant la porte, la présence d'un prunier fourchu lui indiqua qu'elle était à la bonne adresse. Jetant un coup d'œil dans l'étroite allée qui séparait les deux édifices, Magda aperçut un petit jardin et le coin d'un cabanon. À côté, on avait proprement empilé des planches et d'étranges morceaux de métal. Coinçant sous son bras gauche un petit ballot de tissu, Magda frappa avec détermination à la porte toute simple de la masure. Après un moment, elle entendit un bruit de pas.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda une voix d'homme derrière le battant de bois.
« Vous êtes le sorcier mérite ?»«
Désolé, mais je ne peux recevoir personne. »
« C'est important !»«
Pas pour moi. Je suis occupé. S'il vous plaît, allez-vous-en. »
Les bruits de pas retentirent de nouveau, s'éloignant de la porte.